Le billet politique. Frédéric Saïs.
Bonjour Frédéric.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
Et pendant ce temps, Marine Le Pen déroule.
La politique, c'est comme le journalisme, c'est l'art des priorités. Celle du moment, en l'occurrence, semble être de savoir s'il était de bon ton pour M. Macron de réunir ses soutiens dans une brasserie cossue au soir du premier tour. Le Front National vient d'engranger près de 8 millions de voix, l'abstention 10 millions d'inscrits, les votes blancs et nuls concernent près d'un million de bulletins, et le débat majeur est celui-ci. Le candidat d'En Marche a-t-il eu tort de s'accorder une pause festive pendant deux heures? Alors bien sûr, l'ambiance de fête à la rotonde est dérangeante par son aspect triomphaliste. Évidemment, attention à l'excès de confiance. Dans l'histoire politique, nombreux sont ceux qui ont eu la tentation de chanter et de boire dès le premier tour, sans anticiper qu'ils pourraient déchanter face aux déboires du second, à l'image de François Mitterrand en 1974.
Avec près de 44% des suffrages exprimés dès le premier tour de scrutin, j'en suis exactement au point où se sont trouvés avant moi le général de Gaulle en 1965 et Monsieur Pompidou en 1969. Les conditions du succès sont d'ores et déjà réunies.
François Mitterrand qui perdra ensuite face à Valéry Giscard d'Estaing. Mais revenons à 2017. Emmanuel Macron n'est pas exempt de tout reproche donc, mais cette focalisation sur la soirée de la Rotonde dit quelque chose de la campagne que nous vivons. D'abord parce qu'elle a été marquée du sceau des affaires et que désormais chaque fait et geste sont analysés selon le prisme de l'exemplarité et même de la frugalité, de l'ascétisme. Deuxième élément, tout se passe comme si une partie de la presse avait intégré les critiques de Marine Le Pen sur le système, sur ses allégations selon lesquelles les médias serait unanimement pro-Macron, et comme s'il fallait donc expier, démentir cette accusation, en tirant en quelque sorte sur le favori.
Et pendant ce temps, la candidate du Front National est laissée relativement tranquille.
Oui, dans une campagne, il y a ce moment très précis où un candidat semble en mesure de l'emporter et où il change de statut. Tout bascule, vous l'avez remarqué. Son programme est alors passé au laser, sa personnalité à l'essoreuse et on découvre une nouvelle facette de l'impétrant une fois le vernis gratté. Deux exemples, ce fut le cas, souvenez-vous, pour François Fillon juste après la primaire. Vainqueur surprise, tout le monde a alors semblé découvrir que son projet prévoyait de diminuer le rôle de la Sécu. Ce fut le cas plus récemment avec Jean-Luc Mélenchon, c'est au moment où les sondages l'ont classé parmi les potentiels qualifiés pour le second tour qu'on s'est aperçu qu'il voulait faire adhérer la France à l'Alliance bolivarienne. Alors chacune de ces propositions peut se discuter, mais ce qui est intéressant, c'est que ce palier, ce seuil, appelons-le de l'essoreuse pour faire simple, Marine Le Pen ne semble pas l'avoir atteint. Alors pourquoi? Est-ce parce que sa victoire n'est pas réellement envisagée? Toujours est-il que depuis dimanche soir, elle déroule tranquillement ses éléments de langage, c'est ainsi que sans mal, hier soir, elle a pu citer en modèle les droits de douane de la Suisse. Droits de douane à 55% sur les produits agricoles, dit-elle, l'exemple du protectionnisme intelligent. Manque de chance, selon une enquête de la radio-télévision suisse, ces droits de douane sont en moyenne à 5,1%. Qu'importe, à l'ère des fake news. Pendant ce temps, d'autres discutent du sexe des anges, du menu de la rotonde ou de la place des virgules dans les communiqués qui appellent à faire barrage.
Merci beaucoup Frédéric Saïs. Il est 8h20 sur France Culture et nos invités Jacques Nikonoff, cofondateur d'Attac et aujourd'hui dirigeant du PARDEM, le parti de la démondialisation. À côté de lui, Thierry Pech, qui est le directeur général du think tank Terra Nova. Le protectionnisme intelligent, est-ce que cela vous séduit, Thierry Pech? Est-ce que pour vous, cela peut exister?
Non, ça ne me séduit pas du tout. Ça me fait même assez peur. À vrai dire, en plus, on ne sait pas trop de quoi on parle. Parce que quand on regarde le programme de Marine Le Pen, c'est elle qui parle de protectionnisme intelligent, les choses restent très floues. Elle parle d'une taxe sur les produits importés de 3%, mais elle a ajouté par ailleurs que les taxes, les droits de douane pourraient monter jusqu'à 35% sur certains produits venant de certains pays. Alors quand on croise tous ces certains, qu'on fait un peu de théorie des ensembles et regarde ce qui reste à l'intersection, il semblerait que ce soit pour pénaliser la Chine, le Vietnam, le Bangladesh, ce type de pays. Notre premier déficit commercial, il n'est pas avec la Chine. On a un déficit commercial plus important avec un pays comme l'Allemagne. Alors s'il est question de faire du protectionnisme avec l'Allemagne, il faut le dire, ça semble pas être son intention, mais ça n'aurait rien de très intelligent.
Voilà. Pourquoi?
Je suis pas en train de dire...
Non, mais attendez, pourquoi ça ne serait pas très intelligent, selon vous, de faire du protectionnisme?
Parce que l'Allemagne est à la fois notre premier client et notre premier fournisseur. Il est évident que si on prenait ce type de mesures, il y aurait des mesures réciproques peu sympathiques. Voilà. C'est-à-dire que c'est toujours pareil. On ne voit que la partie intérieure. On ne voit que l'appartement qui serait protégé. Mais on ne voit pas ce qui se passe dehors. Le problème, c'est que le monde n'est pas à flux constant, si vous voulez. Il réagit. Et donc, si on a construit ces ensembles supranationaux qui font hurler M. Nikonov, c'est pas par plaisir ou pour créer du chômage. C'était pour créer les conditions d'échanges plus harmonieux, où il n'y ait pas de guerre des monnaies, où il n'y ait pas de dumping de toutes sortes. Alors les choses sont pas parfaites, je suis pas du tout en train de dire que le libre-échange est une théorie parfaite, pas du tout. Je pense qu'il faut le réguler, qu'il faut faire de l'accès qualifié au marché même, mais ces perspectives néo-protectionnistes me paraissent pas un bon chemin.
Jacques Nikonov, le protectionnisme intelligent, est-ce que ça peut exister? Est-ce que c'est souhaitable?
C'est un des aspects. Je pense qu'il faut d'abord regarder de façon plus large la solution, les solutions. Pour nous, partie de la démondialisation, la solution globale, systémique, qui s'oppose à la mondialisation néolibérale, c'est la démondialisation. C'est-à-dire scier les trois piliers sur lesquels repose la mondialisation néolibérale. Scier le pilier du libre-échange, scier le pilier de la globalisation financière, scier le pilier des institutions supranationales.
Alors comment s'y prend?
En reprenant en main, comment on s'y prend? On s'y prend de manière unilatérale. Il n'y a pas de solution européenne ou mondiale. Pourquoi? Parce que ce sont des espaces, l'espace européen, l'espace mondial, vides de peuples. Les peuples n'existent pas à cette échelle. Ceux qui tiennent les ficelles, ce sont les classes dominantes. Donc, bien sûr, il faut organiser la convergence des luttes. Il faut continuer à demander, à réclamer, à mobiliser pour que des solutions européennes et mondiales prévalent. Mais on ne peut pas faire cela seulement. Il faut agir nationalement. Et donc, il faut non pas faire du protectionnisme. Un mot sur le protectionnisme. Parce que il faudrait savoir exactement de quoi l'on parle. Le libre-échange et le protectionnisme sont les deux faces de la même médaille libérale. Les classes dominantes au XIXe siècle, par exemple, et aujourd'hui, et même au XXe siècle, et aujourd'hui même au XXIe siècle, selon leurs intérêts nationaux, selon la conjoncture, insistent tantôt sur le protectionnisme, tantôt sur le libre-échange. C'est pas le problème. Le protectionnisme ne s'oppose pas au libre-échange. Nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut des mesures protectionnistes. Et à cet égard, nous nous appuyons sur un document qui s'appelle la Charte de la Havane de 1948, très important, qui était négocié dans le cadre des accords de Bretton Woods de 1944, qui n'a pas vu le jour parce que le Sénat américain n'a pas voulu ratifier, document ratifié quand même par 53 pays. Ce que dit, pour l'essentiel, cet accord international, pour réorganiser, pour organiser le commerce international, il faut mettre en place le principe de l'équilibre de la balance des paiements. Voilà, c'est pas compliqué. L'équilibre de la balance des paiements. Et donc, quand il y a un déséquilibre entre deux pays, des mesures protectionnistes sont autorisées. Non pas pour conquérir le marché dans le pays en question, mais pour revenir à l'équilibre. Voilà, nous, ce que nous disons.